À tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je savais que j'étais un invité de marque. Bon, j'étais pas au courant, mais bon, le tapis rouge est déroulé, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'aux yeux de Dieu, nous avons beaucoup de prix et nous sommes dans l'Église des hommes, des femmes qui ont du prix, de marque, donc c'est vrai. Et aujourd'hui, je veux développer ce thème avec vous. Donc ce texte que nous avons lu, la prière de Jésus, un texte, je dirais, assez connu puisqu'il est dans les évangiles, et un texte qui va nous révéler pas mal de choses. Voilà, petit détail technique, petite correction. Donc une prière de Jésus, une prière qui a été faite à un moment particulier du ministère de Jésus, du ministère terrestre, puisque cette prière, Jésus la formule à la fin de son ministère. C'est-à-dire ce chapitre 17 précède bien sûr les autres, 18 et 19. Et là, dans les chapitres suivants, on voit la croix, la résurrection, l'ascension de Jésus. Donc c'est vraiment à un moment particulier que Jésus va adresser cette prière. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, mais le chapitre 17 de Jean, en fait, comprend trois parties bien distinctes. La première partie, de verset 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Alors, si tu peux le réafficher, le texte, il va dire, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Donc, effectivement, l'heure de la croix était proche. Dans la Bible, il y a comme ça des temps marqués. Et ce temps marqué, bien sûr, c'est le temps de Dieu par excellence, c'est le temps du salut, du plan de Dieu. Et Jésus va dire, glorifie ton Fils, afin que ton Fils le glorifie. Donc là, dans ces premiers versets, Jésus prie pour lui-même, parce qu'il sait que les temps qui vont suivre vont être difficiles, délicats. La croix, c'est un moment très difficile. Et Jésus prie pour lui-même. Bon, c'est pas cet aspect-là que je veux traiter avec vous aujourd'hui, mais dans cette prière, vous voyez bien l'aspect que Jésus veut donner, il prie pour lui-même. Et après, nous avons deux autres parties, à partir du verset 6 jusqu'au verset 20, je crois. Voilà. De 6 à 19, Jésus va prier pour ses disciples, pour les douze, ou plus exactement pour les onze, il va dire, je les ai gardés, les douze, sauf un, le fils de la perdition, qui, bien sûr, fait ce qu'il a fait pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc une deuxième partie où Jésus met l'accent sur pour ses disciples, prie pour ses disciples. Et on va voir, pour nous, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette prière. Et enfin, à partir du verset 20, Jésus va prier pour l'Église naissante. Alors si tu peux arriver jusqu'au verset 20, ça serait pas mal. Parce que, bien sûr, à cette époque-là, l'Église n'existe pas, elle est toute naissante. Et c'est par là que je voudrais commencer. Et à l'aide d'autres versets de la Bible, on va voir comment Jésus prie pour ses enfants. C'était le titre de notre méditation. C'est-à-dire que cet aspect de la prière de Jésus pour ses enfants, on ne le voit pas que dans l'épître, dans ce chapitre 17 de Jean. On le voit à travers la Bible, avec d'autres versets qui viennent étayer ce passage. Donc on va commencer par l'Église naissante. Alors bien sûr, maintenant, l'Église n'est plus naissante, nous faisons partie de l'Église, mais ce qui est dit là s'applique encore maintenant, puisque nous faisons partie de l'Église. Ça fait maintenant plus de 2000 ans que l'Église existe, et nous ne savons pas encore pour combien de temps, mais Jésus va dire, donc à partir du verset 20, tu l'as passé le verset 20, voilà, juste, voilà, ce n'est pas pour eux seulement, les disciples, que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront. Donc là, Jésus se met en perspective de ce qui va arriver. Et nous, nous sommes bien sûr la continuation de cette perspective que Jésus a annoncée. Donc, Jésus va prier là pour les âmes qui viendront eh bien, bâtir l'Église. Donc pour nous qui avons répondu à l'appel de l'Église, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous tous qui sommes là, eh bien, nous avons été confrontés à l'Évangile, aux paroles de Jésus. Et parce que Jésus a prié pour nous et prie pour nous encore, eh bien, nos cœurs ont été touchés pour, bien sûr, entrer dans l'Église. Alors, pour illustrer mon propos, on trouve des textes, soit dans l'Évangile, soit dans le Nouveau Testament, qui viennent argumenter cette phrase qui nous dit « Eh bien, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront. » Et par exemple, dans Hébreux, dans le livre des Hébreux, alors là, l'auteur de ce texte, il fait un parallèle avec l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance qu'il y avait au temps du peuple juif. Et il compare le tabernacle et il compare Jésus. Et il nous a dit « Mais Jésus est devenu prêtre en vertu d'un serment que Dieu a prononcé. Quand il lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement, tu es prêtre pour toujours. » C'est vrai qu'au temps du tabernacle, au temps du peuple juif, les prêtres se succédaient. Mais Jésus, par son œuvre sur la terre, est devenu un prêtre pour toujours. Ainsi, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure, c'est-à-dire notre alliance, aujourd'hui, est meilleure que ce qu'il y avait auparavant. Et au verset 25 du chapitre 7 d'Hébreux, il nous est dit « Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Voilà, là on voit un autre texte qui nous parle de la prière de Jésus pour l'Église, pour son peuple. Donc Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Donc c'est formidable de réaliser aujourd'hui encore que Dieu prie pour le salut des âmes. Nous, nous sommes rentrés dans l'Église, mais il faut savoir qu'encore beaucoup de nos contemporains ne sont pas encore dans l'Église et Jésus prie. Et donc ça vient confirmer ce qui nous est dit dans ce texte. Et puis toujours dans le livre des Hébreux, et toujours en comparaison du temps passé, il nous a dit « Ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des mains d'hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré, mais c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. » C'est-à-dire que autrefois, les hommes avaient bâti un sanctuaire, le tabernacle, et chaque année, le prêtre venait et présentait les péchés du peuple, et Dieu descendait, etc. Maintenant, Jésus se présente lui-même devant Dieu et il prie pour que l'Église grandisse, il prie pour les âmes. Donc Jésus prie afin de bâtir l'Église, parce que c'est lui qui bâtit l'Église. Nous, nous sommes ouvriers dans l'Église, nous travaillons dans l'Église, mais c'est Christ qui bâtit son Église et il prie le Père. Alors, dans quel but ? Eh bien, quand nous lisons le texte, il prie pour l'unité. Voilà, afin que tous soient un comme toi. Voilà, quelque chose d'important. Christ prie bien sûr pour les âmes, mais dans un but de créer l'unité dans l'Église, afin que tous soient un. Et ça, c'est un leitmotiv qui revient, on verra tout à l'heure avec le texte qui se rapporte aux disciples, l'unité. Jésus prie pour l'unité dans l'Église. Alors pourquoi ? Pour que le monde croit. Vous voyez là en fin de verset 21, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Si nous avons l'unité dans l'Église, eh bien le monde va croire. Donc Jésus prie pour cela. Donc Jésus prie pour nous, pour que l'unité. Alors bien sûr, vous allez me dire, il existe plusieurs dénominations, plusieurs mouvements, c'est vrai, mais ces mouvements peuvent avoir un lien d'unité. Donc Jésus prie, et il est important que l'unité de l'Église au sens large, mais aussi unité dans l'Église, dans notre Église, dans notre propre Église, qu'il y ait l'unité. Et ça, c'est très important, c'est un témoignage que Dieu nous demande afin que l'Église, eh bien, grandisse. unité dans l'amour de Dieu pour que le monde croit aussi. Je crois qu'on le voit un petit peu plus loin. Bon. Non, c'était avant, mais c'est pas grave. Unité dans l'amour de Dieu pour que le monde croit. Pour que l'amour soit en eux aussi. Jésus prie pour qu'il y ait de l'amour dans le cœur des croyants. Donc c'était avant ça. Ouais. Bon, c'est juste après l'amour. Enfin bon. Donc, unité dans l'amour, et que l'amour soit en nous. Donc Jésus prie pour ces choses-là. Donc c'est important de savoir ça, quand nous sommes dans l'Église, quand nous sommes membres d'une Église, eh bien, nous avons un Jésus qui prie pour nous, et qui prie pour que l'Église grandisse, que de nouvelles âmes se rajoutent, et nous qui sommes aujourd'hui dans l'Église, eh bien, il veut que nous soyons unis, il veut que l'amour règne en nous, et il va terminer en disant, alors là c'est au verset, c'est vers la fin de ce texte-là, il va demander, je veux que là où je suis, ils y soient aussi. Voilà, là c'est très fort. Dans cette partie de texte, Jésus va dire, Père, je veux. Bien souvent, nous, on évite de dire ça, je voudrais, j'aimerais. Mais Jésus va dire, Père, je veux. Alors je reprends votre texte, puisque bon, en fonction des versions, les mots ne sont pas toujours les mêmes. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, c'est-à-dire nous tous, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux. Ça, c'est un mot très fort, c'est-à-dire que Christ, le Seigneur Jésus, va employer ce mot, je veux. Habituellement, nous, quand on demande quelque chose, on met une forme, on dit j'aimerais, je souhaiterais. Mais là, Jésus, il va réclamer pour nous, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, donc il prie pour nous, il dit je veux qu'il demeure avec moi. Il y a un autre texte, et c'est Jésus qui parle dans un autre passage. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, en effet, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire que Jésus, il prie là, mais il l'a dit aussi dans un autre passage, il nous promet dans le ciel une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Ça, c'est une volonté de Jésus, que là où il est, nous soyons aussi. Formidable, non? Dans notre monde de problèmes, de misère, de souffrance, eh bien, Jésus prie le Père pour que là où il est, dans son ciel de gloire, c'est vrai qu'il a retourné, il est retourné dans la gloire, eh bien, il veut que nous aussi, nous soyons dans cette gloire. La gloire que tu m'as donnée, eh bien, il veut aussi que nous la partagions. Donc, Jésus prie le Père pour que nous partagions sa gloire, la gloire qu'il avait quittée. Parce que là, c'est une révélation importante. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, a quitté cette gloire, puisqu'il était déjà, il existait déjà. Et lorsqu'il a passé un temps sur la terre, il avait quitté cette gloire, il s'est dépossédé, mais il est ressuscité, il nous a précédés, il est reparti dans le ciel, il est reparti dans cette gloire près du Père, et il veut que nous partagions cette gloire. Il veut que nous soyons, eh bien, bénéficiaires de cette gloire céleste. Alors bien sûr, ça peut nous échapper un petit peu, ces termes, ces dimensions qui sont un petit peu, eh bien, en deçà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est difficile à définir. Mais Jésus prie pour que nous soyons au bénéfice de cette gloire, et il prie le Père, « Père, je veux ». Là, il insiste, je dirais lourdement. Alors, dans d'autres textes, c'est un petit peu plus allégé, mais là, c'est le texte, je crois, de traduction Louis II, « Père, je veux ». Eh bien, le Seigneur Jésus prie pour que nous soyons bénéficiaires au bénéfice de cette gloire. Alors, bien, réjouissons-nous, mes frères et sœurs, mes jeunes amis, parce que, bien sûr, sur la terre, nous avons des moments de joie, de bonheur, et nous allons le voir après que La joie fait partie de la vie du disciple. Mais nous avons aussi des difficultés, des soucis, des passages difficiles. Mais nous savons qu'un jour, eh bien, parce que Jésus fait cette prière, que nous participerons à cette gloire divine. Donc c'est une réjouissance pour l'Église, pour nous tous qui sommes déjà dans l'Église, mais pour tous ceux qui viendront s'ajouter, ce que nous voyons dans ce texte, hein, eh bien, nous tous, eh bien, nous serons participants de la gloire divine. Alors maintenant, on va revenir au début du texte, au chapitre 6, et c'est la deuxième partie que nous voulons regarder cet après-midi. Jésus va prier pour ses disciples. Alors bien sûr, dans le texte, il prie pour comme j'ai dit tout à l'heure, pour les 12 ou les 11, comme on veut. Jésus va prier pour les disciples qui l'ont accompagné pendant son périple terrestre. « Je t'ai glorifié dans la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, et maintenant, Père, glorifie-toi auprès de toi-même de la gloire que j'avais. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Donc les hommes que tu m'as donnés, c'est vraiment les 12. Donc il prie particulièrement pour ces 12. Mais, par extension, nous qui sommes dans l'Église, eh bien, nous aussi, nous devenons des disciples. Et nous aussi, nous pouvons nous approprier cette prière de Jésus. Puisque si nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos cœurs, si nous le suivons, bien sûr, nous sommes des disciples. D'ailleurs, Jésus va dire, dans un texte dans Matthieu, « Allez, il dit aux 12, allez par le monde et faites des nations des disciples. » Donc c'est bien ce qui est arrivé avec vous cet après-midi, mais avec des milliers et des milliers d'autres personnes dans le monde, dans les siècles qui nous ont précédés, les apôtres, avec leur travail, leur ministère, eh bien, ils ont suscité des disciples. Et nous sommes aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il est intéressant de regarder ce que Jésus dit aux disciples, dit aux 12. Alors, quelques points, quelques faits marquants qu'on peut aussi illustrer par d'autres textes de la Bible. Il va dire, eh bien, je te demande de les garder. Voilà, il dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alors bien sûr, là, il met, pour un temps, il focalise sur les disciples. Il dit, je ne prie pas pour le monde dans cette prière. Ça ne veut pas dire que Jésus se désintéresse du monde, puisque précédemment, on a vu que Jésus prie pour l'Église. Mais il dit, c'est pour eux que je prie. Donc Jésus a une prière particulière pour ses disciples, donc pour nous tous. Ceux que tu m'as donnés, eh bien, nous en faisons partie. Nous sommes à Dieu, parce qu'ils sont à toi, nous appartenons à Dieu. Et il dit, garde-les. Alors on pourrait se dire, mais de quoi doit-on être gardé? Eh bien, quand on regarde la Bible, quand on n'a pas le temps de regarder les détails, mais on voit que nous pouvons être confrontés à tout un tas de soucis, de problèmes, le doute par exemple. Garde-nous du doute, Seigneur, oui, garde-nous de tomber dans le doute, ça peut arriver. Garde-nous de la crainte. Eh bien, on peut avoir, effectivement, dans ce monde qui est dur, de la crainte, on peut avoir peur du lendemain, de ne pas être sûr de l'avenir. On peut avoir un manque de confiance. Donc, Jésus va prier pour nous et dit, Père, garde-les. Garde-les de tomber dans tous ces soucis, dans tous ces travers. Évitons qu'ils aient le doute, qu'ils aient de la crainte, de la peur, un manque de confiance. Parce que je les ai appelés à servir, c'est ce qu'on va voir après. Donc Dieu, Jésus prie son Père pour que nous soyons gardés. Alors, un texte qui illustre ce verset Il nous est dit dans Romains, de même l'Esprit vient pour nous aider dans notre faiblesse. C'est vrai que nous pouvons parfois avoir de la faiblesse dans nos cœurs. Et il nous est dit en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Parfois c'est vrai que nous, dans nos prières, nous ne savons plus ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu, qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'Esprit. Car en accord avec Dieu, il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Donc un autre texte qui nous rappelle que Jésus, enfin là il est parlé de l'Esprit Saint, il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Donc dans nos doutes, dans nos faiblesses, Dieu va intercéder pour que nous puissions avancer, que nous puissions relever la tête parfois. C'est vrai que les difficultés peuvent nous assaillir, les difficultés peuvent nous laisser un petit peu sur le bord de la route, mais Dieu intercède et il demande à Dieu de nous garder. Alors bien sûr, c'est là encore, c'est formidable de penser que nous avons dans le ciel quelqu'un qui prie pour nos soucis de chaque jour, nos problèmes. C'est vrai que dans notre quotidien, dans nos activités, on oublie ces choses-là, mais le chapitre 17 nous le rappelle et d'autres textes nous rappellent que l'Esprit Saint ou Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Alors c'est vrai que c'est une dimension qui dépasse souvent notre entendement, mais les textes sont clairs et ils sont là pour nous fortifier et pour nous rappeler que nous devons nous accrocher à ces promesses. Il dit encore « Préserve-les du monde, préserve-les ». Et il dit « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde ». C'est vrai que nous tous qui vivons, nous vivons là, à Paris, nous vivons en province pour certains, nous vivons en banlieue, nous avons nos activités. Dieu ne nous a pas demandé, lorsque nous sommes devenus chrétiens, de nous isoler, comme certains l'ont fait. C'est vrai que dans des religions, on voit des hommes, des femmes qui s'isolent dans des monastères et qui s'écartent du monde, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu dit, je te demande de les préserver, mais de ne pas les ôter et de les mettre dans un endroit particulier. Donc l'Église a sa place. Les disciples de Jésus-Christ ont leur place dans le monde, c'est-à-dire que nous avons une place, nous avons une position et nous devons l'assumer. Mais Jésus sait que ce n'est pas toujours facile, donc il nous dit, je te demande de les préserver du mal. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a lu quelque part, alors là, voilà, mais de les préserver du mal au verset 15. Alors, dans d'autres versions, il est dit de les préserver du malin, ou d'autres disent de les préserver du diable. Donc, Jésus prie pour nous, pour que nous puissions exercer la position, bien sûr notre position d'homme, de femme, de la société, mais aussi de disciples dans le monde, là où il nous a placés. C'est-à-dire que nous pouvons être dans telle et telle activité, profession. Christ ne nous demande pas de nous mettre à l'abri dans un monastère. C'est bien clair, ça. Enfin, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi nous préserver? Un texte, Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera ». C'est vrai que nous avons besoin d'être préservés. Alors, le diable est toujours à l'affût pour nous poser des problèmes. Dans l'épreuve, par exemple, Romains aussi, il nous a dit « Qui les condamnera ? Le Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ». Là, on voit encore un autre texte qui nous rappelle que Christ intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Non. Il dit non. Christ intercède pour nous. Et quand ces choses arrivent, Christ va redoubler, il va intercéder pour nous quand ce genre d'épreuve arrive. Alors les épreuves, bien sûr, il y en a toutes sortes. Dans Job, dans le livre de Job, il nous a dit « Dès à présent, j'ai un témoin au ciel. Oui, j'ai dans les lieux élevés quelqu'un qui témoigne pour moi. » Formidable. Job, vous connaissez l'histoire de Job, ce personnage biblique de l'ancien temps, qui était près de Dieu, qui marchait dans les plans de Dieu, mais qui un jour a été éprouvé. Et Job, au sein de l'épreuve, dans la période la plus difficile, quand sa femme lui disait, eh bien, maudit Dieu et meurt, eh bien, lui dit non, j'ai dans les lieux élevés quelqu'un qui témoigne pour moi. Dire, c'est bon d'avoir un témoin favorable, et même au sein de cette détresse-là, dans l'épreuve la plus terrible, eh bien, comme Job, eh bien, nous pouvons dire, eh bien, oui, nous avons quelqu'un qui plaide notre cause auprès de Dieu, même quand nous sommes dans une situation difficile, quand nous vivons des moments délicats, particuliers, que nous n'avons pas forcément voulu. Bien sûr, des fois, on se met dans des situations où nous sommes un petit peu responsables, mais ça, il peut arriver aussi que nous soyons dans des situations difficiles. Job en est l'exemple même, il n'avait rien demandé, lui. Il vivait paisiblement, il louait Dieu. Il n'était pas chrétien, puisque à l'époque, on ne parlait pas de christianisme, mais il était fidèle à Dieu. Et bon, on connaît l'histoire, le diable a dit, ouais, il est fidèle parce qu'il est riche, il est béni, mais touche seulement assez bien à sa famille, tu verras qu'il va te maudire en face. Eh bien non, Job, même au sein de cette épreuve, a dit non, non, je sais que dans les lieux élevés, j'ai quelqu'un. Et ce quelqu'un, il témoigne pour moi, et je sais que mon avenir, même si aujourd'hui, eh bien, je n'en vois pas les résultats, eh bien, mon avenir est là, et je reste confiant. Donc nous avons dans les lieux élevés, quelqu'un qui témoigne pour nous. Alors nous avons aussi des épreuves, et le diable est bien sûr dans 1 Jean au chapitre 2, il nous a dit, mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Voilà encore un autre aspect de la prière de Jésus. Ce texte-là ne nous encourage pas à contre le péché. Il dit, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais si toutefois il nous arrivait de pécher, eh bien, nous avons un défenseur. D'autres versions vont dire, nous avons un avocat. C'est important d'avoir un bon avocat dans la vie. Dans la vie courante, parfois, ça peut être utile. Même si on n'est pas un brigand de grand chemin, il est utile de connaître un bon avocat. Et là, il nous est dit dans ce texte que, eh bien, Jésus est notre avocat. Alors là, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Jésus va plaider en notre faveur auprès de Dieu si toutefois nous sommes tombés dans un péché, dans un problème. Dieu va prier pour nous. Jésus va prier pour nous auprès du Père. Donc, nous voyons là, au travers de ces textes, que Jésus, eh bien, est attentionné pour ses enfants, il prie pour ses enfants, pour l'Église, mais aussi pour nous qui sommes des disciples, nous qui sommes des acteurs des disciples. Alors, il nous est rappelé également dans cette deuxième partie qu'il prie pour l'unité, les disciples doivent être unis, il prie pour que la joie, pour qu'ils aient la joie, une joie parfaite. Alors, ce n'est pas toujours évident, mais Jésus, bon, on n'a pas le temps de revenir, parce que je vois que le temps passe, mais Jésus prie pour que notre joie soit parfaite. Il nous garde pour que nous ayons l'unité, la joie. Il nous préserve des attaques de l'adversaire. Et il veut que l'Église soit forte. Donc, cet après-midi, bien, le temps est écoulé déjà, je crois. Eh bien, nous avons vu rapidement, hein, c'est très rapide. Ah oui, j'oubliais un dernier point, pardon. Il nous demande aussi, il prie pour que nous soyons consacrés. C'est dans la fin de cette partie de texte. Consacrés, c'est-à-dire mis à part ou sanctifiés. Donc, je crois que ce texte-là, il nous parle de sanctification. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il veut que nous soyons à son service. Donc, Christ prie pour que nous soyons à son service. Comme le rappelle Matthieu nous dit qu'il veut que nous fassions des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, Christ prie pour nous, pour que nous nous rendions un service, pour que nous soyons de vrais acteurs. La consécration ou la sanctification, c'est-à-dire que nous soyons un peuple à part. Donc, voilà plusieurs orientations que je décrit rapidement, bon, le temps manque un petit peu. Donc ce que nous voyons à travers de ce texte, c'est que Christ est parti, c'est vrai, il est parti dans le ciel, après son ministère, il a quitté la terre, et il a retrouvé la gloire auprès du Père. Mais cette gloire, comme on l'a vu, il veut nous la faire partager, il veut que l'Église grandisse, il veut que nous soyons des disciples actifs. Alors cet après-midi, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. Dans quelle perspective nous plaçons-nous? Est-ce que nous aussi, nous voulons être des disciples actifs? Est-ce que nous voulons que Christ prie pour nous? Parce qu'après tout, on pourrait dire, oh ben non, moi, je vais être tranquille, je veux voir ça de loin. Non, Christ veut au contraire que nous soyons, eh bien, adhérents à cette prière. Nous disons, oui, amen, Seigneur, je comprends que tu pries pour moi, et je dis, oui, Seigneur, merci pour les grâces dont je suis l'objet. Tu me gardes, tu me préserves du monde, tu veux que je sois un disciple efficace dans le monde, là où tu m'as placé. Voilà, c'est un choix que Christ met devant nous cet après-midi. Et donc c'est à nous de regarder en nos cœurs, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous devons méditer à nouveau ce texte pour bien en comprendre la richesse? Bon, j'étais un petit peu rapide cet après-midi, mais j'essaye avec vous d'en dégager l'essentiel. Donc à nous de nous reposer la question, de nous repositionner et dire oui Seigneur, je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment adhérer à cette prière et dire, cette prière, elle est pour moi, non pas pour mon voisin, mais elle est vraiment pour moi. Tu as quitté ce ciel de gloire, tu es venu sur la terre, tu t'es donné sur la croix, et ça je l'ai compris, j'ai adhéré à cette idée, je suis devenu ton enfant, et maintenant je sais que tu pries pour moi. Et si tu pries pour moi, eh bien je vais avancer, malgré les difficultés, malgré les soucis. Merci Seigneur. Amen.